Chapitre 23, le logis de Monsieur Bruno. En quittant les deux jeunes gens, Monsieur Bruno, évidemment pressé, prit la peine pourtant de refermer la porte. Il traversa d'un pas rapide la chambre de notre héros Michel, que nous brûlons de présenter enfin au lecteur. En passant devant la croisée, il s'arrêta court, fit un crochet et vint coller son œil au carreau. La fenêtre qui faisait face et où brillait naguère la lampe de la pauvre malade était noire. Sans doute Madame Leber dormait, mais une lumière se montrait à la croisée voisine qui éclairait la chambre de sa fille. Un groupe se projetait sur les rideaux, ou plutôt un couple, dessiné par la bougie unique allumée au piano d'Edmé. Une femme debout et, la tête penchée, un homme agenouillé. Ce groupe était immobile et en apparence silencieux. Monsieur Bruno, malgré la grande hâte qui semblait le talonner désormais, resta une minute tout entière à regarder ce groupe. Quand il s'éloigna enfin de la fenêtre, un soupir souleva sa poitrine. Une émotion grave et douce était sur son visage. Il descendit enfin l'escalier d'un pas lourd et lent. Sa physionomie, redevenue morne, exprimait le calme engourdi de la végétation commerciale. Paris est plein de ces machines spécialement propres à gagner un peu d'argent, qui calculent et ne pensent point. Penser perd le temps. En tournant le palier du premier étage, M. Bruno lança pourtant un regard oblique à la porte sévèrement élégante qui avait à son centre une plaque de cuivre ovale, luisante comme l'or, avec ces deux mots « Agence Lecoq ». Ce fut tout, il passa. Au rez-de-chaussée, il entr'ouvrit la loge du père Rabot et dit « Trois pattes avaient sommeil, le paresseux ». « Tiens, il est donc chez lui, trois pattes ?» demanda le portier. « Oui, oui, nous n'avons fait que 300 de piquets ce soir. Pas gras chez les jeunes gens. Dis donc, père Rabot. »« Ah, vous êtes entré chez les jeunes gens ?»« Oui, pour leur rappeler l'échéance. Pas gras. » Il referma la porte. Une fois dans la rue, M. Bruno prit à gauche et s'arrêta à l'entrée de la maison voisine. Il frappa et donna un petit coup à la vitre du concierge, qui lui cria sans se déranger « Elle n'est pas encore venue, monsieur Bruno, la lettre qui vous apportera vos 25 000 livres de rente. »« Elle viendra, patience, patience. » On lui répondit par un éclat de rire. Monsieur Bruno monta le premier étage posément, et les trois autres avec une agilité soudaine. La porte de son logis était au quatrième étage et portait son nom, écrit à la craie. Si quelqu'un avait eu intérêt à espionner M. Bruno, et nous verrons bientôt que ce quelqu'un existait, voici ce qu'il eut découvert en mettant son œil et son oreille à la serrure du marchand d'habits. Les Normands sont prudents. Le premier soin de M. Bruno, en prenant possession de son logis, fut de donner deux bons tours de clé, après quoi il alluma sa lampe. C'était pour lui l'heure du souper. Il mangea un morceau sur le pouce. Ce repas dura juste 5 minutes et fut pris du meilleur appétit. « À la niche !» dit-il assez haut pour être entendu de l'escalier. Les gens qui vivent seuls contractent cette habitude de parler avec eux-mêmes. M. Bruno vivait absolument seul. Sa toilette de nuit ne fut pas plus longue que son repas. On put ouïr les planches de son lit qui craquaient avec bruit. Bonsoir les voisins, dit-il encore tout haut et joyeusement. Et la lampe s'éteignit. On allait évidemment dormir de la bonne manière. Les voisins de M. Bruno, nous pouvons vous les nommer. Il n'y avait personne pour l'entendre dans sa propre maison, car sa chambre tenait tout un côté de carré. Elle était grande et lui servait de magasin. Mais dans l'autre maison, celle d'où M. Bruno sortait, il y avait, au même étage que lui, nos deux jeunes auteurs dramatiques, leur ami Michel, que nous ne connaissons pas encore, et l'estropié des messageries du plat d'étain, trois pattes. Les deux premiers étaient trop loin, le troisième se trouvait absent, M. Bruno ne pouvait l'ignorer. Quant à trois pattes, il dormait, selon le propre dire de M. Bruno. C'était donc à lui-même que M. Bruno souhaitait ainsi le bonsoir. Pendant plusieurs minutes, ce silence complet régna dans sa chambre. Au bout de ce temps, le lit craqua pour la seconde fois, mais bien doucement, et une oreille très subtile aurait pu saisir le bruit à peine perceptible d'un pied nu qui touchait le carreau avec précaution. Puis ce fut un son de porte roulant sourdement sur ses gonds. Où cette porte? La chambre de M. Bruno n'avait en fait qu'une porte, celle qui donnait sur le carré, l'architecte voulut affirmer. Mais après tout, personne ne pouvait savoir au juste ce qui était ou ce qui n'était pas dans la chambre de M. Bruno, car, circonstance étrange, depuis qu'il l'avait louée, nul n'avait eu permission d'en passer le seuil. C'était un locataire tranquille, exact à payer son terme, on tolérait ses manies. Une minute ou deux après ce bruit de porte, on battit le briquet chez Trois Pattes. Le père Rabot vous eût dit pourtant qu'il n'avait point vu rentrer l'estropié. Il est vrai que M. Bruno prétendait avoir fait avec lui et chez lui une partie de piquet dans la soirée, mais ces Normands disent ce qu'ils veulent. Une lueur passa sous la porte de Trois Pattes. Soit qu'il fût de retour, soit qu'il quittât son lit à cette heure où l'on se couche, il était éveillé. Voilà le fait certain. En ce moment, Similor, les mains dans ses poches et Échalot, portant Saladin comme un panier par lance, remontaient mélancoliquement l'escalier pour regagner leur taudis. Ils avaient fait un tour au boulevard du Temple, le long des chers théâtres, pour calmer le chagrin de leur déconvenue. Le cirque colossal, la sensible gaieté, les folies dramatiques, le gymnase de la moyenne épicerie, Madame Saki, les funambules et le petit Lazari avaient successivement ouvert leurs portes pour l'entracte sans leur apporter la moindre contremarque. Le public du dimanche avale le spectacle jusqu'à la lie. Et d'ailleurs, la chance n'y était pas, quoi. Similor roulait dans sa tête étroite des pensées tumultueuses. Échalot se sentait amoindri. La récente tentative auprès des deux jeunes gens l'affaissait. Tuer la femme n'était déjà pas une besogne si agréable quand on a bon cœur. Eh bien, on ne voulait même pas de lui pour cela. Saladin, habitué à toutes sortes de positions fâcheuses, râlait tout doucement. L'enfance de ce petit n'était pas heureuse, mais il s'accoutumait à l'agonie comme Mithridate au poison. Il avait la vie dure autant que les chats orphelins. Pour le tuer, il eût fallu lui casser la tête avec une pierre. Dire qu'il y a des particuliers qui font la poule à cette heure-ci dans tous les établissements de la capitale, gronda Similor, qui crispait ses poings fermés dans ses poches. Le bonheur est fait pour les chanceux, répondit Échalot. Similor s'arrêta devant la porte de Trois Pattes. Tiens, dit-il, le lézard ne dort pas. « Il a une situation, celui-là, » soupira Échalot, qui mit Saladin sur son épaule. Tel dans les tableaux de grand style, les splendides filles de l'Italie, portant leurs vases étrusques en revenant de la fontaine. Leur cruche, cependant, ne disent rien, mais Saladin protestait. « Faut-il essayer ?» demanda Similor. « Il y a du louche dans ces mœurs de ce paroissien-là. « Essaie si tu veux, Amédée. » Ceci fut dit avec fatigue. L'ancien garçon de pharmacie était à bout d'espoir. Similor gratta timidement les planches mal jointes. On ne répondit point. « Fera-t-il jour demain ? » prononça-t-il tout bas. Échalot s'était arrêté. Tous deux retinrent leur souffle pour écouter. Saladin, ayant poussé un cri, fut corrigé. Il n'y eut point encore de réponse. « Holà, monsieur Mathieu !» reprit Similor en élevant la voix, « si quelquefois vous aviez besoin de deux jeunes gens qui savent ce que parler veut dire pour la chose de vos ouvrages secrètes. »« Allez au diable » fut-il enfin répondu. Nos amis infortunés échangèrent un douloureux regard. Personne ne voulait d'eux. Ils continuèrent à monter l'escalier dont les marches ne sonnaient point sous leurs chaussons de lisière. Saladin ayant encore crié, Similor proposa de l'étouffer. Ce n'était pas mauvais naturel chez ce brave garçon, mais le malheur aigrit. Du reste, Échalot ne voulut pas. Ils parvinrent au comble de la maison où quelques planches de bateau fermaient leur petit coin de grenier. Sur ces planches, un morceau de carton, cloué de travers, parodiait l'opulente plaque du premier étage et murmurait « Agence Échalot », comme l'autre criait « Agence Lecoq ». Misère, étonnante misère. Et aussi, miracle de l'aveugle espoir, Échalot espérait « faire des affaires ». Quelles affaires, bonté du ciel! Entre quels intérêts le pauvre diable pouvait-il servir de trait d'union? Ne soyez pas incrédule, cependant. Paris possède des banquiers en haillons, et chaque rouerie en usage dans les salons de la haute finance se répercute au burlesque dans le ruisseau, au burlesque ou au sanglant. Le dénouement, croyez-le, a ses études, ses cabinets, ses comptoirs, comme il a ses lieux d'orgie, ses tripots et ses salles de bal. À 100 pieds au-dessous du niveau du possible, on spécule, on calcule. Le courtier des chimères ne se rencontre pas seulement dans les environs de la bourse, et cette orgueilleuse sirène que vous nommez l'industrie ne finit même pas en poisson. Ses pieds hideux sont des écheveaux de polypes qui grouillent on ne sait où. Que si cependant vous exigiez un bilan exact des ressources de l'agence Échalot, il faudrait bien vous répondre que l'essence même de cette hardie spéculation est le néant. Échalot comptait sur la chance et ne demandait qu'à gagner un gros lot sans prendre de billets. Et presque tous les malheureux ont bu ce poison spécial. L'abrutissement distillé par l'antique mélodrame joue ainsi quelque lamentable rôle. L'absurde, ce garde-fou de la route commune, n'existe plus pour eux. Ce sont la plupart du temps de bonnes âmes, ou du moins des âmes naïves. Que de pauvres jeunes filles ainsi perdues, que de braves garçons détournés du travail prosaïque et affolés jusqu'à l'admiration littéraire du vice et du vol. Quand l'opium se vend à 2 sous en pleine rue, comment s'étonner de ces idiotes ivresses? Mais le fond, eh bien, Échalot, cet abîme, en dehors de l'agence qui était sa gloire, utilisait à la sourdine ses talents pharmaceutiques et fabriquait du poil à gratter pour les charlatans de la place de la Bastille. Nous ne voulions pas vous le dire, il y avait grande honte à cela, et devant 6 000 ors lui-même, il attribuait à des trucs les maigres bénéfices de ce labeur mystérieux. Saladin en vivait, et ce pervers Échalot n'était pas à l'abri de partager son talon de pain avec un pauvre. Mais comme il eût tué la femme avec plaisir! Se peut-il que le mal soit de si difficile accès, et la religion du crime imbécile rapporte-t-elle si peu à ses fervents? Il n'y avait pas même une chandelle à l'agence Échalot. Nos deux amis se couchèrent sans souper. La lune secourable éclairait seule leurs mouvements et le triste décor qui les encadrait. Le bouge était meublé d'une chaise, de 2 banquettes en guenilles, d'une large paillasse éventrée et d'une table supportant, ma foi, 2 étages de carton. Qu'y avait-il dans ces cartons? Les affaires de la maison Échalot, parbleu. 2 ou 3 poignées de lambeaux à l'usage de Saladin et du poil à gratter. Saladin fut déposé sur la table, entre l'écritoire desséché et une bouteille vide, qui eût valu ses 3 sous si elle n'eût été fêlée. « Et dire, répliqua Similor, qui avait de vraies larmes dans la voix, que la moindre poule gagnée donne de quoi se divertir dans Paris, faire la noce avec des dames et se plonger dans l'oubli de ses propres tourments. Toujours des dames, riposta Échalot avec humeur. Moi, si j'avais de l'or, je me borderais à nous donner les plaisirs de la table. Ce soir, Similor se fut contenté de se pis-aller. Ah, n'empêche, dit-il, qu'on en a vu qui mettait un jeune homme dans l'aisance, des dames, à la dernière des folies dramatiques. Te souviens-tu de la marchande de denrées coloniales qui prenait des billets de 500 dans la caisse de son époux pour les fourrer à monsieur Théophile? Autrement tourné que toi, celui-là, fit Échalot, qui remplissait ses devoirs auprès de Saladin. Similor se jeta sur la paillasse. « Si on en avait les toilettes, soupira-t-il, gilet blanc, cravate bleue de ciel avec épingle en pierre précieuse, bagues aux doigts, coiffées par le perruquier des théâtres et du fard sur les joues, la mère de Saladin était plus aristo qu'une épicière. » Échalot haussa les épaules et dit « Aval, petitot, C'est moi qui ai ta vraie mère pour les sentiments. » Et puis il ajouta en soupirant, « Pauvre joue d'argent !» C'était peut-être le nom ou le sobriquet de la défunte. Ce fiévreux similor se tournait et se retournait sur sa paillasse. « Il n'y a pas de bon Dieu !» s'écria-t-il tout à coup. « Je t'ai fait pour toutes les délices de l'existence heureuse et débauchée !»« Calme-toi, Amédée !» lui dit sévèrement son ami. « Tu te fais du mal avec tes passions brûlantes. La chance peut venir si on trouvait une ficelle. » « J'en ai une, » l'interrompit Similor d'une voix sombre. « Voyons voir. » Amédée se souleva sur le coude. Un rayon de lune éclairait son maigre visage, autour duquel ses cheveux plats tombaient comme des serpents. « Tu ressembles au traître, » murmura Échalot, épouvanté. « Ça y est, » répondit Similor avec une froide exaltation. « Je ne crois plus à rien, même aux faiblesses de la nature. » Tout le monde sait bien qu'on trouve des bourgeois impotents qui veulent perpétuer leur race pour ne pas laisser périr le nom de leurs ancêtres. Je leur colle Saladin pour 100 francs comptant. » Échalot ne répliqua pas tout de suite. Il pressa l'enfant contre son cœur avec une véritable tendresse et mit un long baiser sur sa pauvre joue blême. « Fais silence, Amédée, » prononça-t-il solennellement. « Tu blasphèmes! L'enfant est plus à moi qu'à toi, car je l'ai nourri de mon laitage. J'entrerai, s'il le faut, dans une voie criminelle. Je n'ai pas froid aux yeux, et je suis prêt à violer les lois arbitraires faites par les tyrans. C'est mon caractère. Mais il faudra que tu me passes au travers du corps, entends-tu, pour nuire aux petits. J'ai son plan d'éducation tout fait, et je lui laisserai intégralement mon héritage. » « Pour sensible, tu es sensible, » dit Similor, attendri. « Mais si l'impotent était pair de France, si ça faisait le bonheur de Saladin pour tout son avenir, et qu'il nous protégerait par la suite, que nous irions le voir à son château, sur l'impérial, et qu'il nous mettrait des bourses dans la main, sachant le secret de sa naissance qu'on cacherait à l'univers entier. « Bonjour, papa Similor, ça va bien, maman Échalot ?» « Enchanteur, » murmura ce dernier, qui pleurait et qui riait à la fois, « comme tu manies la parole avec adresse. Ah, pour son bonheur, vois-tu !» Il s'arrêta et reprit. « Mais s'il allait nous renier plus tard ?»« Impossible, » protesta Échalot. « Je ne dis pas qu'il nous embrassera dans la rue, cela ne serait pas raisonnable, mais il nous fera des petits signes amicaux du sein de son carrosse. » « Je n'en demande pas davantage, » soupira tendrement Échalot. « Et puis d'ailleurs, crois-tu que nous ne serons pas habillés proprement à l'époque ?»« Dame, s'il en fait les frais généreusement. »« Ah, il le fera, j'en réponds. Viens te coucher. » Échalot embrassa une dernière fois le futur pair de France et s'étendit sur la paillasse. La concorde était rétablie entre les deux amis. Pendant un quart d'heure, ils dialoguèrent leurs légitimes espérances, puis ils trouvèrent un sommeil plein de rêves, où ils se virent tous deux, gras et cossus, fêtant l'abondance éternelle. De bonne foi, Saladin, héritier, acheté par l'impotent, pouvait-il faire moins pour papa et maman? Ils ronflaient tous deux, maman et papa, pauvres estomacs creux, pauvres consciences vides. Courez le monde, fouillez l'univers, nulle part ailleurs que dans les ravins de la forêt parisienne, vous ne trouverez ces végétations monstrueuses. La lune tournait et mettait sa lumière sur la mièvre face du petit. C'était un vieillard en miniature et gentil pourtant. Dans les rides indécises de ce masque, on devinait les rudiments d'un sourire à la Voltaire. Comment poussent-elles ces créatures ? Les enfants, scrupuleusement soignés, meurent parfois, car Paris n'est pas une bonne nourrice, mais cela ne meurt jamais. Ils percent la terre sous le pied qui devait les écraser. Ils ont la santé du champignon. S'il y avait la peste, ils en vivraient. Chance de mauvaise herbe. Que deviennent-ils, ces fils de l'impossible? C'est le mystère et c'est le hasard. À quoi peut servir une pareille trempe? À tout. Leur berceau fut leur vice, mais ils ont souffert. Aucune souffrance n'est perdue, là-bas, quand le patient a la force et le temps. Parmi ces créatures, l'innombrable majorité n'a pas le mal, c'est la litière de nos sociétés. Mais d'autres, ah, ceux-là sont d'acier. Prenez garde et découvrez-vous, c'est solide pour nuire ou pour bien faire, c'est intrépide ou c'est implacable, cela inspire la terreur ou le respect. Les grands coquins ont cette origine, les ardents tribuns aussi, aussi les fiers poètes, aussi les magnanimes apôtres. Sera-t-il Cartouche cet avorton, ou Robespierre, ou Bernadotte, ou Beaumarchais, ou Vincent de Paul? Paris est capable de tout. Mais qu'elle les laide au clair de lune, cette graine d'idiot ou de héros. Tirez! Pendant que tout dormait dans ce trou plein d'illusions et de misères, la porte du logis de trois pattes, située à l'étage au-dessous, roula doucement sur ses gonds. Le commissaire estropié de la cour du plat d'étain sortit de sa chambre avec précaution, après avoir éteint préalablement la lumière. Il monta l'escalier en rampant, et c'était chose pénible mais curieuse de voir avec quelle adresse de reptile il profitait de sa roulette ou troisième patte. Il s'arrêta devant le taudis d'échalot et prêta l'oreille. Puis, longeant un corridor étroit qui traversait les combles, il rejoignit l'escalier de service et en descendit les marches à reculons jusqu'au premier étage. Là étaient deux portes, dont l'une s'ouvrait sur les cuisines, assez vastes et bien vivantes, de la maison Lecoq, dont le patron était un joyeux appétit. Ce fut à l'autre que l'estropié frappa six coups ainsi espacés. 3, 2, 1. La porte roula aussitôt sur ses gonds, et une voix de femme, énergiquement enrouée, lui dit en patois corse « Fa giorne donque a queste nat scoplat » Il fait donc jour cette nuit, éclopé. Trois pattes passa le seuil en rampant, répondit « Il y a du nouveau, madame Batista. J'ai travaillé pour deux aujourd'hui, tout éclopé que je suis. » Je ne dormirai pas avant d'avoir entretenu le patron. »